Bonjour à toutes et à tous. Je trouvais qu'il y a une harmonie entre le sujet de l'adoration ce matin et avec ce message que nous allons voir ce matin. Et le titre de ce message est « Vivre d'une manière digne de l'Évangile ».« Vivre d'une manière digne de l'Évangile ». Alors que nous allons regarder ensemble dans la parole de Dieu, je vous invite à prendre vos Bibles et retournez avec moi le livre de Philippiens, le premier chapitre. On va lire le verset 27, 28, 29, 30. Philippiens, chapitre 1. On va lire le verset 27 à 30. Philippiens 1, 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, et qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Que le Seigneur bénisse sa parole. Cette épître n'est pas nouvelle pour nous, et je suis sûr que nous avons tous lu cette épître au moins une fois, et nous avons certainement entendu de nombreux sermons sur cette merveilleuse épître de l'apôtre Paul à l'église de Philippiens. Mais ce matin, nous allons juste nous arrêter et méditer un moment sur ces quatre derniers versets de ce chapitre, et précisément le verset 27. Philippiens est l'épître de joie et d'encouragement au milieu de circonstances défavorables. Paul exprime sa tendre affection pour les Philippiens, apprécie leur témoignage constant et le soutien, et les exhorte avec amour à centrer leurs actions et leurs pensées sur la poursuite de la personne et de la puissance de Christ. Les mots clés pour Philippiens sont « Christ et ma vie ». Au centre de Philippiens se trouve le concept « car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Philippiens chapitre 1, verset 21. Chaque chapitre de cette épître résonne avec le thème de la centralité de Jésus dans la vie du chrétien. À l'origine, cette épître a été écrite par Paul à l'église de Philippe, pas pour nous. L'église de Philippe fut la première église fondée par Paul en Macédoine. Les citoyens de cette colonie étaient considérés comme des citoyens de Rome et bénéficiaient d'un certain nombre de privilèges spéciaux. Et donc, dans ce verset, Philippiens chapitre 1, verset 27. On va lire, on va un peu étudier le premier verset, le verset 27 seulement. Et dans le premier verset, la partie A, la première partie de verset 27, il y a une conduite qui est requise. Et seulement conduisez-vous d'une manière digne d'évangile de Christ. Et c'est quoi cette conduite requise d'un chrétien? Tout d'abord, j'aimerais que vous preniez note de la conduite requise. C'est ainsi que tout commence, ainsi que commence le verset 27. Paul commence cette mini-section en donnant ce commandement aux Philippiens qu'ils doivent vivre d'une manière compatible avec l'Évangile. D'une manière compatible avec l'Évangile. Notez comment commence le verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Ce mot « seulement » devrait sauter de la page devant nos yeux. Vous devriez souligner ce mot « seulement » parce que le mot « seulement » ici ne signifie qu'une chose, ceci et cela seulement. Paul se concentre dans la vie, sur l'Évangile et sur le fait de vivre d'une manière digne de l'Évangile. Et c'est ce qu'il dit aux Philippiens, seulement et rien d'autre. Maintenant, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Pour paraphraser cela, ce que Paul dit, vivez d'une manière qui honore et glorifie l'Évangile de Christ. Vivez d'une manière qui est conforme aux exigences de l'Évangile. L'Évangile appelle à notre foi en Christ. L'Évangile appelle à notre renoncement à nous-mêmes. L'Évangile appelle à la mort à soi-même et à l'obéissance de Dieu. L'Évangile appelle à notre soumission à la Seigneurie de Jésus-Christ. L'Évangile nous appelle à laisser le monde derrière nous et à suivre Christ, et ainsi que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu et que nous devons continuer dans le royaume, de nous conduire d'une manière digne de l'Évangile. Maintenant, parlons de ce verbe « conduisez-vous ». De toute évidence, notre conduite est très importante pour Dieu. La façon dont nous vivons notre vie est d'une extrême importance pour Dieu en tant que des croyants, en tant que des chrétiens. Aucun croyant ne doit jamais avoir une attitude de laisser faire et être passif dans sa vie chrétienne. Mais avec une grande intentionnalité et une foi active, nous devons nous conduire d'une certaine manière. C'est un mot tout à fait unique, « conduisez-vous ». C'est un mot dans le grec original et cela vient d'une racine grecque d'où nous devrions le mot anglais politique, ou même en français c'est politique ou politicien. Le mot racine polis signifie la ville. Le mot métropole, Minneapolis, c'est une ville aux États-Unis, et même police par exemple. Et l'idée est d'être citoyen dans une ville ou dans une cité-État, et comme vous le faites, vous auriez des obligations envers le gouvernement d'être un citoyen respectueux des lois. Quand vous vivez dans cette ville, vous serez soumis aux lois, aux règles et aux règlements de la ville. Et vous ne serez pas libre de vivre comme vous voulez. Par exemple, vous ne pouvez pas rouler à plus de 30 km à Paris. Si vous êtes parisien, vous êtes obligé de rouler au-dessus de 30 km. Mais il y aurait des statuts, il y aurait des paramètres qui orienteraient la façon dont vous viviez. C'est le même mot qui est utilisé ici. Il dénote les responsabilités civiles dans une citoyenneté terrestre. Il fait référence aux devoirs politiques par lesquels vous êtes obligé de payer certaines taxes. Ou vous êtes obligé de rendre certains services. Vous êtes obligé de vous conformer à la loi de cette ville ou de ce pays. C'est un mot très technique. Ce n'est pas le mot pour juste dire obéir ou garder ou écouter. C'est un mot spécifique qui avait une signification exceptionnelle pour les Philippiens. Les Philippiens, ils comprenaient exactement qu'est-ce que ça veut dire, ce mot. Et je pense qu'un mot dans le contexte historique nous aidera. Et si vous avez une Bible d'études, les notes au bas de votre Bible d'études, et c'est une bonne Bible, si c'est une bonne Bible d'études, attireront votre attention sur cela. La ville de Philippe était différente de la plupart des villes de l'époque. C'était une colonie romaine. Et la raison pour laquelle c'était une colonie romaine est que des armées plus tôt, que des années plus tôt, il y avait une guerre civile qui a été menée. Il a été combattu entre deux armées opposées. Et après cette victoire, les soldats romains sont restés et sont occupés Philippe plutôt que de rentrer chez eux à Rome. C'est ainsi que la ville de Philippe elle est devenue une colonie romaine. Et à la suite de cette occupation romaine, qui se trouve sur le premier périmètre lointain de l'Empire de cette ville, de Philippe a reçu un statut spécial. Il est connu comme une colonie romaine. Ainsi, tous ceux qui vivaient à Philippe bénéficiaient d'une protection spéciale en vertu de la loi. Il avait certaines dispositions qui leur étaient accordées parce qu'ils faisaient partie de cette cité-État. Mais il exerçait aussi des responsabilités particulières. Il avait une plus grande allégeance et loyauté qui était due à César en raison de cette relation contraignante. Et beaucoup de personnes, comme moi-même, nous venons d'une ancienne colonie française en Inde, c'est-à-dire de Pondichéry, nous pourrons comprendre qu'est-ce que ça veut dire une colonie d'un État dans un pays. Peut-être capable de mieux comprendre la vie et le mœurs d'une colonie. Paul a tout cela distinctement à l'esprit quand il a dit au verset 27 « Conduisez-vous seulement, il y a un jeu de mots qui manque dans la langue française ou dans une autre langue, mais si nous avions la langue originale avec laquelle Paul a écrit ceci, nous verrions clairement le jeu de mots qu'il fait ici. » Il parle de deux citoyennetés. Et ce qu'il dit, vous croyant en Philippe, vous jouissez d'un statut très privilégié dans l'Empire romain. Vous savez, Paul lui-même avait la citoyenneté romaine par sa naissance qu'il utilisait pour échapper à la flagellation. Et plus tard, quand il était devant les juges, il devrait recevoir le châtiment par flagellation. Il a dit, moi je suis un citoyen romain. Il y a une allusion ici, vous devez être un bon citoyen dans l'Empire romain. Mais plus que cela, vous êtes membre d'un empire supérieur, d'un royaume beaucoup plus élevé, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il y a des lois et des règlements que le roi des rois a mis en place. Et comme vous vivez en tant que croyant, vous avez l'obligation morale d'être un bon citoyen dans le royaume des cieux. Vous savez ce que, quand le Seigneur Jésus, quand il est venu sur cette terre, quand il a fait la déclaration de son royaume, il a dit ainsi dans le sermon sur la montagne, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 15 à 17. En fait, passons au chapitre 3, juste une minute, Philippiens chapitre 3, et le verset 20. Et ce sera très clair lorsque Paul fera une autre allusion à cette double citoyenneté que le croyant de Philippe avait. Il avait une citoyenneté dans l'Empire romain qui leur accordait les privilèges spéciaux et les prérogatives spéciales en vivant dans cette colonie romaine. Mais ce n'est pas tout. Le double citoyenneté, il avait une citoyenneté supérieure et c'est dans le royaume de Dieu. Ainsi, dans Philippiens 3, verset 20, Paul écrit « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il parlait avec les chrétiens en Philippe, aux Philippiens, il dit que vous devrez conduire comme le citoyen du ciel ici-bas sur cette terre. Maintenant, c'est très, très intentionnel pour Paul de dire cela aux Philippiens. Cela n'aurait pas eu le même impact s'il avait dit cela aux Éphésiens ou l'église de Galatie ou aux autres églises de Colosse ou Thessalonique ou de Sardes ou de certaines d'autres villes comme Laodicée. Mais pour Paul, dire cela aux croyants qui vivaient à Philippe avait une signification énorme. Ils ne sont pas uniquement des citoyens de l'Empire romain, mais plus que cela, ils sont une citoyenneté dans le ciel, d'en haut. Ils doivent loyauté et allégeance à Jésus-Christ d'une manière très spéciale. C'est pareil pour nous, en tant que citoyens français, nous devrions avoir une certaine ligne de conduite. Nous devrions conduire comme les gens de pays. Et si vous venez d'un autre pays, vous vivez en France, je pense que la façon dont nous vivons, les gens qui nous voient, ils vont juger la culture de ce pays d'où nous venons. Cela s'applique à nous. Nous vivons dans une nation merveilleuse, la France. Et nous avons, en tant que citoyens, certains devoirs et des responsabilités. Parmi ces responsabilités, nous devons observer les lois du pays. Nous devons payer nos impôts. Et je peux vous dire que, en tant que citoyens français, nous ignorons les privilèges que nous jouissons. Et c'est peut-être pour cela qu'il y a des manifestations et des grandes grèves de nos jours. Nous devons servir comme notre gouvernement nous demanderait de servir de différentes façons. Et pourtant, nous avons une citoyenneté qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus élevée. C'est le royaume parfait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et notre allégeance à Christ est plus grande que notre allégeance à César ou le président. Nous devons obéir aux lois du pays dans la mesure où nous ne nous sommes pas forcés de compromettre nos convictions au Seigneur Jésus. Maintenant, revenez, si vous voulez bien, au chapitre 1, le verset 27. Et j'espère que vous obtenez ici l'image de ce que Paul dit à ses citoyens de Philippe. Il dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Paul, il est en train de dire beaucoup d'autres choses. Si vous lisez ce chapitre, il commence avec les salutations, il dit beaucoup de choses. Mais quand il vient ici, dans le verset 27, il dit, mais par rapport à toutes ces choses, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Maintenant, ce verbe indique le présent et l'impact de cela est que Paul dit à chaque instant, de chaque jour, vous devez vous conduire d'une manière digne de l'évangile. Ça devrait être votre style de vie quotidienne. Ça doit être votre mode de vie continu. C'est au présent. Ce n'est pas un passé, mais vous continuez à vivre d'une manière qui est digne de l'évangile que vous professez, d'évangile que vous professez de suivre. Il s'agit d'une obligation permanente. Tant que vous êtes sur cette terre, il est obligatoire que vous vous conduisez de cette manière. C'est une décision que chacun de nous doit prendre quotidiennement et continuellement. Mais pour pratiquer, nous devrions d'abord méditer ce que ça implique. Nous devons le faire nous-mêmes. Personne d'autre ne peut faire ce choix pour nous. Cela s'applique à chaque croyant. Ce n'est pas seulement pour certains croyants de Philippe. C'est pour chaque croyant de Philippe, mais c'est pour chaque croyant dans chaque église, dans chaque génération, sur chaque continent, en tout lieu. Il ne s'agit pas d'une déclaration indicative, c'est un commandement impératif. Ce n'est pas un simple souhait de Paul. Ce n'est pas un désir que Paul a pour vous. C'est en fait un commandement de Dieu par l'apôtre Paul qui exige l'obéissance immédiate de chaque croyant qui a la citoyenneté dans le royaume de Dieu. Êtes-vous citoyen du royaume de Dieu? Êtes-vous entré dans ce royaume par la nouvelle naissance? Vous savez, Jésus répondit à Nicodème, « en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si c'est le cas, cela adresse à chacun d'entre nous. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Maintenant, quand Paul dit « d'une manière digne de l'évangile », parlons-en de ce qui peut nous impliquer dans notre vie pratique. C'est ce que nous appellerons comme un terme générique global et qui est un résumé de chaque devoir chrétien, de chaque responsabilité chrétienne. Nous pourrions prendre tous les commandements de la Bible qui sont pertinents pour nous. Nous pourrions prendre tous les impératifs qui parlent directement à nos vies. Nous pourrions prendre l'ensemble, exemple de Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrions prendre l'exemple positif de toute l'écriture de grands hommes et femmes de foi qui sont un modèle dans la façon dont nous conduire. Et tout cela, ainsi que la mise en œuvre des principes de sagesse des livres de Proverbes, tout cela peut être caché dans cette petite phrase d'une manière digne de l'évangile de Christ. Permettez-moi d'étoffer cela un instant. Vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ signifie pour vous et moi de vivre dans la soumission à la Seigneurie de Christ. Pour que nous réalisions que ma vie n'est pas la mienne, que j'ai été acheté à un prix et que je dois vivre pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous réalisons que notre vie n'est pas la nôtre et que nous étions achetés à un prix et que je dois vivre pour la gloire de Dieu, que chaque programme de ma vie, chaque projet de ma vie est d'apporter honneur et gloire au Seigneur Jésus-Christ. De plus, cela signifie que je dois me repentir pendant que je vis ma vie chrétienne. Je ne peux pas me permettre d'attendre la dernière minute de mon existence sur cette terre, comme le brigand sur la croix. Et je dois être quelqu'un qui confesse continuellement mes péchés à Dieu. Que je dois être affligé et triste pour le péché et la voix blessante qui se trouve en moi. Et je dois les reconnaître quand le Seigneur me convainc et le porte à mon attention. Je dois vivre ma vie avec abnégation, que je suis mort à moi-même et que mes véritables intérêts sont vivre pour Christ et pour Dieu seul. Je dois être porteur de la croix pour que je vive d'une manière digne de l'Évangile. On peut utiliser cette phrase, vivre digne de l'évangile de Jésus-Christ, mais je dois être porteur de la croix pour que je vive d'une manière digne de l'évangile. Et je dois suivre Jésus-Christ avec le monde derrière moi et le ciel devant moi. Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, c'était une décision prise lorsqu'ils étaient encore dans les eaux de baptême, quand ils ont chanté avec l'Église « En mon cœur, j'ai choisi » de suivre Jésus-Christ. Et en suivant le Christ, je dois faire avec humilité d'esprit, humilité de cœur et avec un engagement radical envers celui qui était pendu sur la croix et qui a souffert, qui a saigné et mort pour que je me débarrasse de mes péchés. C'est ce qui signifie pour moi vivre d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque Paul commence cette petite section de livre de Philippiens, il commence par la conduite requise, se conduire, vivre en tant que citoyen d'un royaume supérieure, d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Comprenez-vous ce que le Seigneur exige de vous aujourd'hui? Voyez-vous clairement dans sa parole que cela est déposé devant chacun de nous? Chaque pas que nous faisons dans ce monde, chaque parole que nous prononçons, chaque décision que nous prenons, chaque action et réaction que nous entreprenons ici sur cette terre, nous devons nous conduire d'une manière qui est compatible avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés et qui nous apporte honneur et gloire. Donc, premièrement, c'était la conduite requise, la première partie de ce verset 27. Et maintenant, si vous voyez la deuxième partie de ce verset 27, la première partie dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ ». Et la deuxième partie, ils disent, dans la deuxième partie, je veux que vous notiez la constance requise. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie, la constance? Constance, j'ai regardé, c'est la patience ou persévérance de quelqu'un entretenu par une force morale sans défaillance. C'est une chose de... Nous sommes appelés pour se conduire digne de l'évangile et une constance est requise. Nous devrions le faire constamment, sans s'arrêter. Paul affirme maintenant que le Philippien doit se conduire d'une manière digne de l'évangile, qu'il soit présent ou absent. Mais parfois, nous pouvons voir, peut-être pas dans notre église, mais dans certaines églises, tout se passe quand le pasteur il est là. Mais s'il n'est pas là, il n'y aura pas beaucoup de monde. Non, Paul affirme maintenant que le Philippien doit se conduire de la même manière, soit qu'il soit là ou il n'est pas là. Manière digne de l'évangile, qu'il soit présent ou absent. Remarquez comment il poursuit en disant verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'attends dire de vous. » Mais il faut que nous sachions qu'au moment où l'apôtre Paul il écrit cet évangile, il était dans la prison. Il écrit cet évangile de la prison. Donc, il ne sait pas quand est-ce qu'il pourrait venir voir. Il n'est pas sûr qu'il va venir voir. En tout cas, il espère. Il dit que soit que je reste absent, j'entends dire de vous. Et il poursuit en donnant ce bon rapport. Paul dit cela afin de les mettre au défi de vivre de cette manière, qu'ils soient là ou non. Paul n'est pas leur source de grâce et il n'était pas non plus la source de leur force spirituelle. Que Paul vienne ou que Paul reste absent, les Philippiens sont pleinement rendus capables par Dieu lui-même et la vie de Christ en eux de se conduire d'une manière qui rendra gloire à l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas par rapport à notre entourage, ce n'est pas par rapport à l'église que nous assistons, ce n'est pas par rapport à la prédication que nous pouvons entendre. Mais chaque chrétien, il devrait être conscient que le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, il habite en nous. Et il devrait avoir cette prise de conscience que le Seigneur, Dieu, il habite en nous. Il nous donne la force pour vivre d'une manière digne de son évangile. Savez-vous quel a été le succès de l'Église primitive dans le livre d'Actes des apôtres? Ils disent ainsi, le verset 2:42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain » et dans la prière. Ces quatre aspects, on appelle les piliers de l'Église. Mais le mot important ici, il persévérait. C'était le temps des persécutions, c'était le temps adverse. C'est un temps difficile. Mais ces chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement d'apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ils n'ont tout simplement pas commencé à se rassembler pour prier, écouter la doctrine des apôtres, rompre le pain ou avoir des communions fraternelles. Ils se sont montrés fermes pour faire ces choses. Oui, ils persévéraient. Dans la longue vie d'une église, il suffit parfois de regarder autour de soi, de se demander où sont passées certaines personnes. Nous ne les voyons plus. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En Ecclésiaste 7:8. En fait, c'est si important pour Paul que dans le chapitre suivant, chapitre 2, et verset 12, le chapitre 2, verset 12, il répète cette pensée même. Il doit y avoir une intentionnalité de la part de Paul pour répéter cela maintenant une deuxième fois. Regardez le verset 12, chapitre 2. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » C'est ça des chrétiens mûrs, les chrétiens matures, les chrétiens qui ont envie de marcher digne de l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas par rapport à son entourage, ce n'est pas par rapport à les dirigeants de l'Église. Mais eux-mêmes, chacun, il prend la décision de marcher digne de l'évangile de Jésus-Christ. Donc Paul, il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez. C'est un travail. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir facilement, mais c'est un travail. Nous devrions renoncer à beaucoup de choses, beaucoup de nos conforts même. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Paul dit très clairement que son absence en ce moment, il est à Rome en prison, ils sont à Philippe dans l'église. Il rend très clair que son absence ne leur a pas permis de devenir laxistes dans leur vie chrétienne, ni d'utiliser cela comme excuse pour expliquer pourquoi leur vie chrétienne serait dégradée ou inférieure à ce qu'elle doit être dans le Seigneur. Parce qu'en réalité, tout ce qui compte, c'est que Dieu soit avec chaque croyant et que Dieu voit tout et Dieu permet à tous les croyants de faire tout ce qu'il exige d'eux. Vous savez, je pense que les chrétiens, ils peuvent être des bons hypocrites. On peut bien jouer la comédie, on peut, devant des autres chrétiens, on peut avoir une conduite. Et après, quand personne ne voit, on peut avoir une autre conduite. On peut avoir une conduite à l'église, on peut avoir une autre conduite extérieure. Nous sommes tous coupables de... je pense que nous serons tous coupables de cela. Mais pourquoi nous conduisons comme ça? Mais du peur. Parce qu'on a peur d'être jugé, peur du monde, peur des autres personnes. Et donc, je veux nous dire la même chose, que vous soyez seul à la maison et que vous soyez seul dans un bureau, que vous soyez seul dans une voiture et que vous soyez à la bibliothèque ou dans une salle de classe, dans un coin et coupé des autres chrétiens ou vos leaders spirituels, à ce moment-là, est éloigné même de la communion chrétienne. Cela ne sera peut-être jamais une excuse pour le Seigneur, pour une faiblesse de notre part. On ne peut pas donner comme excuse. Mais le Seigneur, il voit toutes choses. Le Seigneur, vous savez, quand le Seigneur, le psalmiste dit, « D'où je peux m'éloigner de toi? Quand je descends dans la profondeur de la mer, tu me vois. » Il nous a vus, même avant que nous étions une forme dans le ventre de notre mère. Donc, on ne peut rien cacher, mais on peut peut-être cacher avec le pasteur, avec les dirigeants de l'Église, avec des autres frères qui nous respectons, ou frères et sœurs nous respectons. Mais nous devrions constamment cette conscience que nous sommes toujours devant Dieu. Marcher digne de l'Évangile, ce n'est pas devant les hommes, mais aussi devant Dieu, constamment devant Dieu. Dieu sera pour nous tout ce que nous avons besoin, qu'il soit alors que nous nous trouvons seuls et absents de la direction spirituelle appropriée dont nous avons normalement besoin. Maintenant, cela ne nous enlève en rien de notre responsabilité de venir à l'Église, d'être avec des autres croyants, parce qu'il y a une force énorme où la parole de Dieu est prêchée, une communion fraternelle avec les enfants de Dieu. Je peux dire que, voilà, je peux être seul et je peux être un bon chrétien. Mais c'est important de rassembler avec des autres enfants de Dieu, avec des autres chrétiens. Mais pour des raisons valables ou par des obligations inévitables, quand vous êtes loin de l'Église, votre vie chrétienne peut encore fonctionner à pleine capacité parce que le Seigneur est avec vous. En fait, le Seigneur est en vous, à l'intérieur de vous. Et c'est pourquoi Paul dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Et troisièmement, pour marcher digne de l'Évangile, il faut le caractère chrétien. Il y a des caractéristiques qui sont requises. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous, demeurez ferme dans un même esprit. Maintenant, c'est comment, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Demeurer ferme dans un même esprit. Maintenant, c'est ce que l'apôtre Paul désire de voir en eux. C'est ce qui apportera de la joie à son cœur. C'est ce qui apportera du plaisir à Dieu. C'est ce qui rendra leur témoignage si fort. C'est ce qui apportera une grande joie à leur propre vie chrétienne. Premièrement, dit-il, vous vous tenez ferme dans un même esprit. Vous vous tenez ferme dans un même esprit. Rappelez-vous que cet épître est écrit à l'église de Philippe, l'église des Philippiens. Et c'est ce que Paul veut entendre, qu'il soit là ou absent, il l'a dit, je veux entendre ceci, que vous voyez tenez ferme dans un seul esprit. Mais bien souvent, c'est ça le problème dans une église. L'église appartient à Dieu, mais c'est habité, inhabité par des personnes comme vous et moi, comme nous sommes, vous savez combien nous sommes faibles. Et l'idée est que vous teniez ferme ensemble dans l'Évangile de Christ. Maintenant, ce verbe « tenir ferme » que vous voyez là, cela signifie être immuable. Hein, ferme, c'est signifie ne pas être bousculé, ne pas être déplacé. L'idée métaphorique est que vous êtes ancré dans un endroit, comme un bateau, ancré dans un endroit. Il n'y a pas de marche arrière en nous, en vous. Vous avez pris position et vous êtes inébranlable à cause de vos convictions dans l'Évangile et vous tenez bon. C'est un terme aussi militaire, tenir bon. Il représente le devoir d'un soldat au combat de tenir sa position. Vous vous rappelez de ce mot lieutenant, mais peut-être on n'a jamais pensé qu'est-ce que ça veut dire un lieutenant. Un soldat au combat de tenir sa position. On lui a assigné un poste sur la ligne de front. Et partout où il y a une un problème, une faiblesse, l'ennemi peut se faufiler et l'ennemi est toujours à la recherche du soldat le plus faible de l'armée. Et s'ils peuvent vaincre le soldat le plus faible, cela devient le point d'entrée pour briser le rang et pour pénétrer et pour infiltrer et pour être capable de provoquer une défaite dévastatrice. Et donc, je pense que dans notre culte et adoration, nous avons chanté ce cantique, le cantique de guerre, de l'armée. Nous sommes, chaque chrétien, c'est un soldat pour Christ. Et nous sommes des lieutenants. Nous devrions tenir le témoignage, nous devrions tenir la place que Dieu nous a accordée. Vous savez, je vais raconter une anecdote. Il y avait une ville antique qui était assiégée. L'ennemi avait campé la ville autour de la ville pendant des mois et des murs de la ville étaient hauts et bien fortifiés et grands et gardés, bien gardés. Le port de la ville était bien gardé aussi. Il n'y avait aucun moyen pour l'ennemi d'entrer et de capturer la ville. Il n'y avait aucun moyen. L'assiègement se durait plusieurs jours, les mois. Hélas, il y avait une petite porte dans la muraille avec son gardien. Il y avait une petite porte. L'ennemi a réussi à soudoyer le gardien de cette petite porte qui a permis à l'ennemi d'entrer dans la ville parce que par cette petite porte, dans la muraille de la ville fortifiée, l'ennemi intérieur est parfois plus dangereux que l'ennemi extérieur. Vous comprenez avec le mot « le lieutenant », cette tâche était confiée à un soldat, mais il n'est pas gardé. Mais bien souvent, en tant qu'Église, mais souvent nous parlons, dans certaines églises, on parle beaucoup de Satan, mais ici, on ne parle pas beaucoup. Mais bien que l'ennemi, il est là, il veut entrer. Mais nous devrions plutôt craindre le problème qu'on peut avoir à l'intérieur que d'extérieur. Et Paul dit, ne laissez pas cela se produire dans votre communion et dans votre église. Vous devez rester ferme, ne reculez pas, ne vous retournez pas et ne faites pas la marche arrière, mais soyez immuable au milieu du combat spirituel. Chacun d'entre nous, nous avons un combat spirituel. Satan essaie avec tout l'arsenal de l'enfer à sa disposition de pénétrer dans l'Église. Une Église qui prêche l'Évangile, qui croit en l'Évangile et qui se tient sur l'autorité de l'inhérence de la parole de Dieu et qui porte haut la croix du Seigneur Jésus-Christ et prêche semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, qu'il n'y ait pas de salut sous aucun autre nom. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Une telle église sera la cible de Satan. Et il fera tout ce qu'il peut pour trouver le membre le plus faible de cette église, quelqu'un qui ne fait que traîner ici moitié ici et moitié dehors, et percer dans la vie de cette personne. Et une fois à l'intérieur, commencer à effectuer un travail intérieur au sein de la communauté de cette Église et commencer à faire circuler l'incrédulité, une mauvaise attitude, un esprit nauséabond et d'essayer de diviser et de creuser un coin dans la communauté de cette Église. Donc, chacun d'entre nous, nous devrions tenir ferme dans notre conviction, dans l'Évangile, dans notre foi et nous devrions se conduire d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce que Paul dit à l'église de Philippe, il nous dit, tenez bon, tenez votre position, ne reculez pas, ne posez pas votre armure, soyez sur vos gardes, car vous pouvez être le point d'entrée même du diable lui-même, qui rôde comme un lion rugissant, sachant qui dévorer. Alors, dit-il, je veux entendre que vous tenez bon face au conflit spirituel. Il ne doit pas fuir, il ne doit pas faire de compromis, il ne doit pas céder, il ne doit pas reculer dans une société impie et dans un monde qui entoure, qui est donné aux idéologies mondaines. Et dernièrement, on peut voir dans la troisième partie de cet verset, combattre avec le même esprit. Dieu exige l'unité entre ses enfants et non l'uniformité. Nous savons que nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes tellement différents. L'unité dans ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Nous sommes tous très différents les uns les autres. Nous venons de continents, de pays, de cultures différentes. Parlons de différentes langues et nous sommes différents en couleur et en apparence. Mais encore, il y a une chose en commun, que nous sommes tous les enfants de Dieu, rachetés par le sang précieux de son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous devons nous efforcer et rechercher l'unité dans notre esprit en recherchant la communion fraternelle et l'harmonie dans le corps de Christ. Mais cela, ça ne signifie pas que nous devons être dans l'uniformité. Nous devrions pas tous avec une opinion similaire, une pensée similaire et le même niveau de compréhension. Dieu nous a tous créés pour être différents. L'homme peut créer des clones, mais seul Dieu peut nous rendre si différents les uns des autres et nous unir dans l'esprit. Et Philippiens 4, premiers deux versets, Philippiens chapitre 4, et nous allons comprendre pourquoi Paul, il dit que nous devrions demeurer fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Philippiens chapitre 4, versets 1 et 2. C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Donc, une des raisons de cet épître, Paul l'a écrit, ils disent que dans l'Église, il y avait beaucoup de femmes. Vous savez, l'Église a commencé avec Lydie, la vendeuse de pourpre. C'est où une prière de la maison qui a commencé à Philippe pour la première fois. Et il y avait beaucoup de femmes. Et donc, on comprend qu'il y avait deux sœurs ici, deux dames, Évodie et Saint-Tiche. On ne connaît pas ce qui était le problème entre les deux, mais tout ce qu'on sait, qu'il y avait, des problèmes. Il y avait des problèmes entre les deux. Et donc, Paul n'entre pas dans les problèmes, il dit simplement, j'exhorte Évodie et exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et nous sommes tellement différents, c'est vrai, mais est-ce que nous avons un même sentiment dans le Seigneur? C'est le Seigneur qui nous unit. Ce n'est pas notre langue, sinon l'Église parlera une seule langue. Ce n'est pas notre langue, ce n'est pas notre couleur, ce n'est pas notre culture, sinon ce sera une association culturelle. Et ce que nous unit, c'est le Seigneur Jésus-Christ et rien d'autre. C'est rien d'autre. Et donc, il exhorte Évodie et Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Même sentiment dans le Seigneur. Et c'est vrai que si vous allez étaler l'Église en ligne horizontale, nous allons voir la différence. Mais quand tout le monde rapproche vers le Seigneur, imaginons, c'est comme une pyramide, quand nous rapprochons plus en plus, nous allons effacer toutes nos différences et nous serons unis en lui. Je ne sais pas, ce serait bien si avec un vidéoprojecteur, on peut montrer cette image. J'ai l'image dans ma tête, mais je ne sais pas combien je peux transmettre à l'Église cette image. Mais de plus en plus que nous approchons du Seigneur, toutes nos différences, tous nos problèmes se seront effacés. Nous serons tous transformés à son image. Et il le dit en Philippiens 2, chapitre 2, 3, 8, on peut lire, Philippiens 2, verset 3 à 8, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Vous savez, dans l'Église, si on pratique l'humilité, si chacun considère les autres mieux que lui-même, vous savez, c'est quelque chose que j'observe, hein, je pense que je ne suis pas exempté de ce problème. Par exemple, quelqu'un vient et la personne qui est déjà assise sur le... Je ne vise personne, non? La personne qui est assise dans le bord du banc, il ne va pas bouger pour laisser la place. Il va garder le... Il va tenir le bord, il va laisser la personne traverser pour asseoir. Mais c'est simplement un exemple. Mais si on considère, on a la considération pour les autres, on ne cherche pas notre propre intérêt, on considère les autres, on cède la place. Mais c'est une petite chose. Mais l'Église de Dieu, ce sera merveilleuse. C'est ainsi que Christ est là. Prévu que son Église soit, s'il n'est pas là, c'est à cause de notre égoïsme, notre fierté, notre manque d'humilité, n'est-ce pas? On va recommencer cette verset. Ne faites rien par verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et encore, Philippiens 4, on va lire versets 5 à 8. Philippiens 4, versets 5 à 8. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. C'est encore dans le même contexte que marcher d'une manière digne. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit objet de vos pensées. Vous savez comment on peut marcher digne de l'évangile de Jésus-Christ? En pratiquant toutes ces choses. Donc, pour conclure le thème débordant du chapitre d'ouverture de Philippiens et l'évangile. Cinq fois dans le premier chapitre, on trouve ce mot. Paul fait une mention directe et explicite de l'évangile. Et je veux attirer votre attention sur ce point. Premièrement, au verset 5, l'apôtre félicite les Philippiens pour leur participation avec lui à l'Évangile. Et c'est toujours la base de toute véritable communion, ce que nous partagions l'Évangile ensemble. Se conduire digne d'une manière digne de l'Évangile. Et si quelqu'un d'autre n'a pas l'Évangile dans sa vie, nous n'avons aucune communion avec lui. Maintenant, nous pouvons avoir de l'amitié et leur montrer un amour général, mais il n'y a que la communion dans le seul véritable Évangile salvateur de Jésus-Christ. Le mot Évangile est mentionné deux fois au verset 27. L'Évangile est le suivant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. L'Évangile est que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui est perdu. L'Évangile est que Jésus-Christ est né d'une vierge. Il a vécu une vie parfaite et sans péché. Il est allé à la croix par rendez-vous divin, car il était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Là, sur la croix du calvaire, il est mort à la place de tous ceux qui mettront leur confiance et leur foi en lui. Celui qui ne connaît aucun péché, Dieu l'a fait pour être péché pour nous. Et là, sur la croix du calvaire, Jésus-Christ a été élevé. Il est devenu notre porteur de péché. Il a souffert sous la colère de Dieu dans le jugement pour nos péchés. Il a versé son sang. Il a fait la seule expiation pour nos péchés, le seul pardon, le seul lavage de la tache coupable du péché et dans la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux d'entre nous qui sont croyants, cela fait vibrer nos cœurs. Rien d'entendre cela d'une fois de plus. Venez, raisonnons-nous ensemble, dit le Seigneur. Bien que vos péchés soient aussi éclatants, ils seront blancs comme neige, bien qu'ils soient rouges comme le pourpre. Ils seront blancs comme la laine. Et si vous croyez en Jésus-Christ dans un instant, il vous rendra irréprochable pour vous tenir devant le trône de Dieu. Il vous revêtira de sa justice parfaite. Et quand il vous regardera, il ne verra pas du tout le péché dans votre vie. Tout sera couvert par le sang de Jésus-Christ. Il sera couvert par la justice parfaite de Jésus-Christ. C'est l'offre que Dieu fait dans l'Évangile de Jésus-Christ. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à réaliser. Tout ce que vous faites, c'est le recevoir comme un don gratuit par la foi. Vous tendez la main vide de la foi et recevez ce don comme votre salut personnel. Et vous recevez Christ comme votre Seigneur personnel. Si vous avez jamais cru en Jésus-Christ, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas ce moment? Pourquoi ne pas simplement donner votre vie à Christ maintenant? Pourquoi ne pas lui abandonner votre vie? Vous savez quoi? Eh bien, vous n'avez qu'une vie. Vous n'avez qu'une seule âme. Dépensez-le judicieusement. Donnez-le à Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et il vous fera entrer dans sa famille. Il vous amènera dans son royaume. Il fera de vous un citoyen de son royaume céleste et vous passerez votre vie éternellement avec lui. Si vous n'avez jamais cru en Christ, c'est le moment. Croyez en lui et vous serez sauvé. C'est simple fait d'être l'Église, d'être à l'Église ne vous sauvera pas. Être élevé à l'Église ne vous sauvera pas. Se faire baptiser ne vous sauvera pas. Prendre le repas du Seigneur ne vous sauvera pas non plus. Être une bonne personne ne vous sauvera pas. Faire de bonnes actions ne vous sauvera pas. Il n'y a qu'une seule chose qui vous sauvera. Et c'est votre pleine foi au Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais cru en Jésus-Christ, faites-le en ce moment même. Vous savez, quelqu'un, c'est anonyme, il a dit ainsi, c'est à réfléchir. Tant que vous n'avez pas trouvé quelque chose qui vaut la peine de mourir, vous ne vivez pas vraiment. Je répète, tant que vous n'avez pas trouvé quelque chose qui vaut la peine de mourir, vous ne vivez pas vraiment. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur, merci pour cet appel qui nous demande de vivre d'une manière digne de ton évangile. Merci pour cette exhortation qui nous demande de marcher digne de ton évangile. Seigneur, nous confessons que nous sommes des misérables pécheurs. Nous péchons, Seigneur, mais nous te demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, le sang de Christ est capable de laver tous nos péchés et qui peut nous rendre purs. Et Seigneur, nous n'avons rien pour être dignes devant toi, dans ta sainte présence. Seigneur, c'est seulement le sang de Christ et de ton pardon qui nous rend pour rester debout devant ta présence. Seigneur, merci parce que tu nous rends capables de marcher, de te suivre, de vivre pour toi. Seigneur, nous faisons confiance sur ton pouvoir divin. Seigneur, nous voulons nous soumettre entièrement sous la gouvernance de ton Esprit Saint. Que Seigneur, tu règnes dans notre vie. Seigneur, que nous prions qu'il y a un seul trône dans nos cœurs. Et ce seul trône, c'est pour toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs de notre vie. Seigneur, nous te rendons gloire pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun. Seigneur, nous demandons toutes ces choses dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.